Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Saint-Denis, près de Paris, dans ce qu'on appelle les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Pour ce deuxième podcast dédié à ce sujet, je vous invite à la découverte de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais et à la rencontre d'un imprimeur taille d'Oussier qui a bien voulu me présenter son métier passionnant. Je profite de ce podcast pour vous inviter également à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma toute nouvelle newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr. La première lettre sera envoyée le 15 janvier prochain, alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. À l'occasion de la troisième édition de Paris Local en novembre dernier, je me suis rendu à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, où j'ai eu la chance de visiter les ateliers de la RMN Grand Palais, la RMN qui signifie la Réunion des musées nationaux. Pour rappel, Paris Local invite chaque année les Parisiens et les touristes à plonger au cœur des talents qui font battre le pouls artisanal du Grand Paris. Cet événement unique offre une opportunité rare de découvrir la richesse de savoir-faire locaux et durables, traditionnels ou innovants, mais toujours passionnants. Parmi les entreprises coup de cœur que j'ai pu découvrir, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais m'ont particulièrement marqué par leur précieux savoir-faire séculaire. J'ai ainsi décidé de revenir explorer plus en détail les deux ateliers qui les composent en fin d'année dernière. L'atelier de moulage de la RMN Grand Palais tout d'abord, dont les artisans font revivre les plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture en réalisant des reproductions de haute qualité grâce à leur savoir-faire traditionnel unique. Et l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, ensuite, dont la mission est de conserver et d'imprimer une collection de plusieurs milliers de cuivres gravés. À l'occasion de cette visite riche de découvertes, j'ai également eu la chance de rencontrer et de m'entretenir avec trois personnes passionnantes parmi celles qui veillent à préserver ces métiers d'art. Je vous propose donc deux podcasts qui relatent ma visite de chacun de ces deux ateliers et qui partagent les interviews des artisans passionnés que j'ai pu rencontrer. Pour l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, j'ai ainsi pu m'entretenir avec Perrine Sastre-Miral, qui est mouleur, mouleur avec un E, et Romane Pradier, qui elle est patineuse. L'atelier de moulage et ma rencontre avec ces deux jeunes femmes font l'objet d'un premier podcast que vous pouvez retrouver sur mon site, lescarnetsdigor.fr, et sur toutes les plateformes d'écoute. Le second podcast, proposé ici aujourd'hui, vous permet de suivre ma visite de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais et de rencontrer Marius Tessier, un jeune artisan enthousiaste qui nous explique son métier d'imprimeur taille d'Oussier. Mais avant toute chose, revenons sur les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Peu connus du grand public, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais sont pourtant au cœur de la préservation et de la transmission de savoir-faire créatifs séculaires et d'un patrimoine artistique unique. Ils jouent ainsi un rôle central au sein de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, dont la mission est de diffuser et démocratiser l'art à travers, entre autres actions, l'organisation d'expositions, la gestion de l'accueil des publics, la médiation culturelle ou encore la gestion des boutiques des musées. Labellisé Label France Savoir-faire d'Excellence et Label Entreprise du Patrimoine Vivant, EPV, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais incarnent une excellence reconnue dans la préservation et la reproduction des œuvres d'art. Fondés pendant la Révolution française, ils regroupent l'atelier de moulage et l'atelier de calcographie, deux entités dont les artisans talentueux participent à la sauvegarde d'un ensemble de techniques et de métiers d'exception. Pour information, si cela vous intéresse d'aller plus loin, sachez que tout au long de l'année, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais proposent des visites guidées. Les réservations pour ces visites se font sur le site exploreparis.com. Tous les détails sont dans l'article publié sur mon site lescarnetsdigor.fr. Mais sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir les portes de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais. Créé en 1797, l'atelier de calcographie du Louvre, aujourd'hui atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, a pour mission de préserver et d'imprimer une collection remarquable de milliers de plaques de cuivre gravées, dont les reproductions sont destinées à la vente et à la préservation du patrimoine historique et artistique. Alors, pour rappel, la calcographie est la technique de gravure sur métal et, par extension, d'impression au moyen de plaques de métal gravées, ici essentiellement du cuivre. D'ailleurs, calcos en grec, qui a donné calcographie, signifie cuivre. Le fonds de collection de l'atelier était initialement constitué des plaques du cabinet du roi, des menus plaisirs, ce service de la maison du roi qui avait la charge de ses plaisirs, c'est-à-dire entre autres des cérémonies et des fêtes, mais aussi des plaques de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Au fil des siècles, ce fonds s'est enrichi grâce à des acquisitions ou des commandes, comme avec par exemple l'acquisition de l'ensemble exceptionnel des 900 plaques de la description de l'Égypte, qui témoigne de l'aventure éditoriale et scientifique née de la campagne d'Égypte initiée par Napoléon Bonaparte en 1798. Depuis le 19e siècle, l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais a également continué à élargir sa collection, soutenant ainsi l'art de l'estampe traditionnelle, grâce à des acquisitions de matrices anciennes ou des commandes de nouvelles estampes originales auprès d'artistes contemporains. Les imprimeurs Taille d'Oussier de l'atelier actuel, qui se situe désormais à Saint-Denis donc, sont ainsi les gardiens d'un savoir-faire traditionnel unique. Un savoir-faire et des techniques qu'ils perpétuent en tirant des gravures anciennes à partir de cuivres originaux sur les presses historiques encore conservées à l'atelier. Pour information, l'imprimerie en taille douce englobe diverses techniques de gravure, des gravures en creux, telles que la pointe sèche, le burin, la manière noire, l'aquatinte ou encore l'eau-forte. Ce métier, dont les origines remonteraient aux orfèvres des XIIIe et XIVe siècles, a évolué à partir de l'idée novatrice d'appliquer par pression un papier sur le métal gravé. Il s'agissait alors pour les orfèvres de conserver un modèle de leurs travaux. Afin de garantir un résultat de haute qualité et fidèle au projet original du graveur, les artisans imprimeurs doivent faire preuve d'une rigueur et d'une précision expertes. Ils doivent ainsi composer avec les particularités du cuivre et ses irrégularités créées par les marques du temps. L'atelier porte alors une attention toute particulière au rendu chromatique qui résulte de recherches approfondies sur les encres, notamment les nuances de noir, et la subtilité des tonalités plus ou moins chaudes. Alors, comme je vous le disais en introduction, pour aller plus loin dans la découverte de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais et sur les techniques utilisées, je vous propose de découvrir ma rencontre avec Marius Tessier, imprimeur taille d'Oussier au sein de cet atelier. Après nous avoir expliqué son parcours, Marius partage avec nous les secrets de son métier passionnant. Bonjour Marius Tessier, vous êtes imprimeur taille d'Oussier au sein de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais. Alors calcographie, ça s'écrit CHALCO et graphie, mais ça se prononce calcographie. Je le dis parce que moi au début je disais chalcographie. Vous allez nous en dire plus sur ce métier, donc ce que signifie ce métier, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on comprenne qui vous êtes et nous expliquer votre parcours jusqu'à votre arrivée ici, donc à l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais.
Bonjour Igor.
Bonjour.
Alors, je peux vous parler déjà de mes études,
Oui.
de comment j'ai découvert le monde de la gravure. C'était en arrivant à l'école Estienne, c'est une
Oui.
école spécialisée dans le livre, aussi maintenant le design graphique. En sortant du bac, j'ai fait une année préparatoire là-bas, donc qui n'existe plus, mais qui s'appelait une mise à niveau en art appliqué. Et la spécificité d'Estienne, c'était d'avoir les mercredis après-midi des initiations au métier d'art. Donc on tournait sur des différents ateliers, notamment la reliure dorure, la typographie, l'illustration et la gravure. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ambiance de l'atelier, que j'ai découvert différentes techniques aussi. C'était vraiment une approche voilà, sur quelques semaines. Et ça a suffi à me convaincre de m'orienter là-dedans à la fin de
D'accord.
cette année préparatoire, de suivre un cursus en 2 ans, donc un DMA gravure, et d'en sortir diplômé en 2020, de faire quelques stages. Et des stages en lithographie, un stage aussi plus particulier chez une artiste graveuse qui est spécialisée en manière noire, donc c'est une technique de gravure.
D'accord.
Et je suis arrivé après à la RMN Grand Palais en janvier 2021
D'accord.
avec un stage de 3 mois, puis une bourse. J'ai obtenu une bourse de la ville de Paris en binôme avec le chef d'atelier,
D'accord.
Bertrand Dupré. On a monté tout un projet de. Comment dire, de formation.
Ouais.
Voilà. Comment moi acquérir le savoir-faire de l'imprimerie taille douce pendant cette année-là. Donc je suis resté de début avril 2021 jusqu'à fin mars 2022.
D'accord.
Et j'ai obtenu un contrat à la suite voilà, de cette bourse.
Super, bah félicitations déjà pour le contrat.
Merci.
Et donc c'est vraiment parti d'un déclic finalement avec lors de la rencontre avec ce métier quoi finalement pendant votre cursus d'études quoi.
Oui, totalement. J'avais pris des cours de dessin au lycée,
Ouais.
avec une petite initiation à la gravure, mais plus faite sur un compte-table. Ça ne m'avait pas du tout intéressé à l'époque. Donc, ce qui était intéressant, c'était de découvrir vraiment l'ambiance d'un atelier dans une école avec voilà, des tables hautes, vraiment spécifiques à la
Ouais, vraiment
gravure.
immergé dans ce que serait votre métier si vous deveniez.
Voilà. Et c'était aussi, j'ai eu l'occasion de faire un stage entre mes 2 ans d'études en DMA gravure, dans un atelier près de République qui s'appelle l'atelier René Tazé, qui est un atelier assez réputé en taille douce. Et en fait, ça m'a conforté dans l'idée que je me voyais plus dans l'artisanat que dans le côté artistique.
D'accord, ok. Non, bah, très bien. Très bien, parcours clair. Alors maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais où vous êtes maintenant, où vous travaillez maintenant. Cet atelier a été fondé donc en 1797, donc c'est un atelier qui a plus de 200 ans. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'on appelle calcographie? Alors on a un peu une idée, mais pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas vraiment ce mot. Et puis, peut-être nous présenter brièvement l'histoire de cet atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, où nous nous trouvons et le contexte de sa création et surtout son rôle et ses missions.
Oui. Calcographie, ça vient du coup du grec, kalkos, le cuivre,
D'accord.
graphie, écriture, donc l'idée d'écriture sur cuivre. Donc ça, plus globalement, on est un atelier d'impression taille douce. Donc
Ça, il va falloir nous expliquer ce que c'est.
voilà.
Peut-être quand vous nous expliquerez
Le
votre métier.
métier.
Voilà.
Mais donc l'idée de l'atelier de la calcographie du Louvre, c'est d'avoir d'abord un fond de plaque, donc de 14 000, plus de 14 000 matrices gravées.
Quand même.
On en exploite la moitié
D'accord.
maintenant, environ 7 000 matrices de 1848 à aujourd'hui. Le fonds continue de s'enrichir avec des acquisitions contemporaines. C'est aussi la calcographie, un fonds d'estampes
Ouais.
et un atelier d'impression taille douce,
D'accord.
où je travaille avec des collègues.
D'accord. Et donc cet atelier donc, a été créé donc, oui, après la Révolution, finalement, c'est
C'est
ça,
ça,
pendant la Révolution.
1797.
D'accord. Et qui était originellement hébergé au Louvre, j'imagine.
Voilà. Et en fait, c'est né d'une décision du général Pomerol, qui avait l'ambition de réunir plusieurs collections déjà existantes,
D'accord.
notamment une des plus importantes, la collection du cabinet du roi, qui avait été en fait une réunion de plaques ordonnée par Louis XIV pour montrer toute sa richesse. Donc voilà, de très belles planches gravées à son époque. Là, les planches ont été patrimonialisées en 2022. J'ai eu l'occasion d'en imprimer quelques-unes,
Ah, super.
notamment des vues de jardin, des vues de feux d'artifice. Il avait aussi fait graver toutes ses statuaires antiques.
D'accord.
Donc, ce sont des très belles planches. Il y avait aussi des pièces de réception à l'époque, quand les graveurs ont pu devenir académiciens et donc avaient besoin de présenter des pièces de référence, des portraits gravés notamment. Donc, ça faisait aussi partie du début de la calcographie.
D'accord.
Voilà. Et après, au fur et à mesure des époques, le fond s'est enrichi. Donc, sous Napoléon, il y a eu toute une. Il y a eu les planches de la description de l'Égypte.
Ouais.
Donc, à partir de dessins faits pendant la campagne d'Égypte de Napoléon,
Incroyable, créer.
on a eu 907 planches qui ont été gravées, qui représentent à la fois des vues de temples, des vues d'espèces. D'espèces,
Local, ouais, enfin
voilà,
animal.
animales, des
Ouais.
plantes aussi. Il y a des très belles vues d'oursins. Moi, j'ai eu l'occasion d'imprimer une planche de Karnak,
D'accord.
une vue intérieure de temple. Voilà, donc des planches qui sont incroyablement bien gravées
Ouais.
sur du cuivre assez épais. Enfin, sans rentrer dans
Ce qui est
les détails,
intéressant, c'est
c'est.
qu'il y a une dimension évidemment sur le travail même de la précision de la planche en fait, et
Voilà.
aussi sur ce qu'elle représente, quoi, c'est-à-dire des témoignages d'une époque, des témoignages historiques aussi,
Voilà.
parce que vous dites les planches de la campagne d'Égypte, forcément, ça nous renseigne sur ce qu'à l'époque on a vu, ce qu'on a retenu de cette campagne, donc c'est
Ce
hyper
qu'on a
intéressant.
découvert, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a certains, par exemple, bouts de temples qui n'existent plus maintenant, qui ont
Ah oui,
été
d'accord.
détruits entre la campagne d'Égypte et aujourd'hui. Donc finalement, un des seuls témoignages, c'est les planches qu'on a dans cette collection. Donc c'est aussi, historiquement, c'est
C'est un peu comme si
passionnant.
au XXe siècle, du XXe siècle, on retrouvait des négatifs de photos, peut-être, de certains
Voilà.
endroits. Ouais, c'est intéressant. D'accord. Et donc là, donc l'atelier maintenant est ici, donc est sorti du Louvre.
Oui, tout à fait. Bah, il a été rattaché à la réunion des musées nationaux en 1895, à la
D'accord.
création en fait. Dès le début, l'atelier de la calcographie a été confié là-bas. Et depuis, l'atelier a connu plusieurs déménagements.
Ouais, ça c'est
Donc
sûr.
voilà, on est sur le site de Saint-Denis, à côté de l'atelier de moulage depuis, il me semble, 2006 ou 2007.
D'accord.
Et avant, l'atelier était rue d'Orchin, dans le
D'accord.
15e arrondissement.
Très bien. Alors, merci. On en sait plus maintenant sur cet atelier, sur ses missions, sur ce qu'on y trouve. Alors, ce que vous n'avez peut-être pas, peut-être qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, les estampes que vous réalisez, etc., les reproductions en fait, qu'on fait, sont destinées à être vendues soit dans des boutiques de musées, soit à la commande, hein, c'est ça.
Tout à fait, oui,
C'est
sur le
ça.
site internet aussi. La
Voilà.
particularité de l'atelier, en fait, c'est l'idée de diffuser au plus grand nombre la collection. C'est-à-dire que globalement, les estampes, on les numérote, on les signe dans le marché de l'art traditionnel. Parce que ça permet, voilà, d'identifier, de donner une valeur à chacun des tirages. Nous, comme les artistes sont souvent décédés, déjà on ne peut plus avoir de signature, mais aussi l'idée c'est vraiment d'en faire en fait sans numérotation et donc à un prix plus abordable. C'est pour ça. Ce que j'ai pas mentionné dans l'historique de l'atelier, c'est que depuis 1989, les commandes auprès d'artistes contemporains ont été relancées par Michel Laclotte. Et donc, on peut se procurer des tirages de, par exemple, Louise Bourgeois ou Pierre Alechinski pour quelques centaines d'euros, tandis qu'un tirage numéroté vaudrait plus.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est aussi l'idée
De
d'avoir une
démocratiser
œuvre
aussi
d'un
l'accès.
artiste, voilà, qui a été fait par sa main, à un prix moindre.
D'accord, super. C'était une petite précision, effectivement, qu'il fallait ajouter. Donc, du coup, maintenant qu'on a en tête l'histoire et le rôle de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, j'aimerais entrer un peu plus dans les détails et que vous nous présentiez les différents métiers qu'on va trouver, les différentes étapes, depuis alors la réception d'une commande, ou en tout cas la volonté de réaliser une reproduction d'une estampe, jusqu'à sa finalisation. Ce sera du coup l'occasion pour vous de nous dire un peu plus sur votre métier d'imprimeur taille-doucier, parce que je suis certain que là aussi, comme le mot calcographie, le mot taille-doucier n'est pas forcément évident pour tout le monde. Voilà, je vous laisse nous expliquer un petit peu ces différentes étapes et quel rôle vous avez à ce moment-là dans la chaîne de création.
Oui, enfin, toute une organisation aux ateliers autour de l'impression, parce que il faut d'abord des collègues qui sont en service support, donc qui gèrent déjà toutes la réception de commandes,
Et bien sûr.
l'alimentation aussi du site internet, et qui centralisent voilà, toutes les demandes sur un fichier de production. Donc soit les demandes peuvent être remplies dès le début, c'est-à-dire qu'on a déjà un stock d'estampes et donc les commandes sont
Oui,
envoyées
pour pouvoir
directement.
répondre plus rapidement à la demande, évidemment.
Voilà. Parce que bah, je vous le détaillerai, mais en général, quand on sort une plaque, c'est pas pour faire une seule impression. On essaye d'en faire plusieurs parce que le temps nécessaire au calage nécessite d'être un petit peu rentabilisé.
Oui, bien sûr.
Donc, mais éventuellement, si une estampe est demandée et qu'elle n'est pas en stock, l'idée étant de l'incrémenter sur le fichier de production. Nous, on regarde, on se répartit un petit peu selon notre ancienneté dans l'atelier, c'est-à-dire qu'il y a des planches qui sont plus ou moins évidentes à imprimer, et donc on va se les répartir comme ça. Selon les presses disponibles, on a quatre presses à l'atelier, et donc on se répartit par format. Parce que voilà, il y a aussi différents formats de plaques, différents
Évidemment,
formats de
ça joue.
presses, c'est important. Et donc après, l'idée, c'est de tout d'abord de s'assurer que la plaque est bien disponible, qu'on va la chercher en réserve. La plaque est protégée par un vernis. On enlève ce vernis, on nettoie le fond de taille, c'est-à-dire que pour détailler justement la gravure taille douce, c'est vraiment l'idée de creux
Ah oui,
sur
d'accord.
une plaque métallique. C'est ça la gravure taille douce. Et donc, il peut rester des résidus d'encre, d'avant, de vernis dans le fond de taille qu'on vient nettoyer. Quand la planche est bien propre, après, on fait toute l'étape de calage qui est nécessaire avant l'impression.
Bien sûr.
Donc, on a généralement des tirages de référence. Quand c'est des artistes, des acquisitions contemporaines, les artistes ont pu signer un bon à tirer. C'est voilà, le tirage de référence qui dit comment imprimer cette plaque-là, sachant que la plaque est une matrice. Et donc, en fait, il y a plein de façons de l'imprimer différentes.
Ah, d'accord.
Donc c'est pas une plaque, un rendu imprimé.
D'accord.
C'est ça aussi la subtilité peut-être du métier.
C'est là où votre savoir-faire rentre en jeu, en fait, c'est ça,
Voilà,
ouais.
tout à fait. Donc si c'est de la couleur, c'est trouver la bonne couleur. Même si c'est du noir et blanc, en fait, on a des noirs chauds, des noirs plus froids, plus pigmentés. Donc en fait, on fait pas mal d'essais préparatoires sur des bandes. Et en fait, on cale déjà la pression de la presse. On cale aussi les encres. Donc on essaie de trouver le bon mélange. Le bon mélange est pas toujours le même selon les imprimeurs. C'est quelque chose qui est très sensible au mouvement, à l'énergie de chaque imprimeur, de nos mains aussi. Donc on va ajuster à la fois la consistance, la pigmentation des encres, la couleur de l'encre, selon tout ça. Le papier aussi, c'est du papier qu'on humidifie la veille. Donc on fait attention voilà, à bien avoir toutes ces étapes réunies avant de se lancer dans un tirage.
Donc avant de commencer le tirage, il y a quand même pas mal d'étapes et pas mal de temps qui se déroulent. Donc c'est.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en général, on sort une plaque. On essaye de faire minimum 20 impressions pour rentabiliser ce temps de calage qui est nécessaire. Donc après, l'idée étant, pour détailler un petit peu plus toute la phase impression, donc nous, avec mes collègues, c'est là-dessus qu'on intervient. C'est aussi déjà un regard sur la collection, mais quand on imprime la plaque, si on s'assure qu'elle est bien exploitable, là j'ai sorti une plaque récemment qui n'était pas exploitable parce qu'elle était trop creusée et donc elle se déformait beaucoup au passage sous presse. On a décidé d'arrêter de l'imprimer. C'était une vue de Venise, elle va juste rester en réserve désormais.
Ouais,
Bon.
en en tant que patrimoine,
Voilà.
mais plus exploité. D'accord,
En
ok.
tant que matrice. Parce qu'on fait attention justement à la collection. Et donc après, une fois qu'on a, pour revenir à l'impression, quand on a réussi à trouver la bonne encre, l'idée étant de venir en fait l'appliquer sur la surface de la plaque, cette fois-ci en intégralité. Et en fait, on a différents outils pour essuyer. On a des tarlatanes,
Je sais pas ce que
c'est une sorte de tissu ajouré, c'est
D'accord,
en
ok.
coton, qui nous permet, en fait, c'est l'idée de l'impression, de l'essuyage, c'est d'enlever tout le surplus et de laisser seulement ce qu'il faut
Bien
dans
sûr.
les creux. Mais ce qu'il faut, ça dépend vraiment de la planche. Si la planche n'est pas assez gravée, on va laisser plus que ce qu'il faut.
D'accord, donc là
Voilà.
aussi, il faut un savoir-faire, soit une expérience qui fait qu'on sait doser, on sait essuyer comme il faut, etc. Ouais.
Tout à fait. Aussi, on voit selon, comme on a des planches plus anciennes qu'on continue d'imprimer, qui ont été très bien gravées, parce que certainement qu'à l'époque, ils avaient des encres plus transparentes.
Ah
Et
oui.
ben nous, on doit aussi adapter les encres actuelles aux plaques anciennes, donc les rendre plus transparentes. Ça, c'est des choses qui se font moins dans les autres ateliers.
D'accord, ouais, donc c'est vraiment.
Voilà. Et donc après, l'idée, c'est d'essuyer petit à petit. Donc on dégrossit avec la tarlatane, on a du papier de soie aussi. Étape finale, c'est la paume de la main, qui ne se pratique pas partout dans le monde. J'ai vu aussi certains ateliers qui utilisent seulement du papier de soie. Nous,
D'accord.
on va dire que c'est l'outil le plus sensible. Ça nous permet vraiment de sentir ce qui se passe au niveau de l'encre sur la plaque, d'enlever le dernier petit film de teinte et de retrouver du coup les blancs de l'image. Les blancs étant les surfaces non gravées
D'accord, ok.
dans la gravure taille
Oui,
douce.
bien sûr. Ok, d'accord.
Voilà.
Ah, je savais pas qu'avec la main, on enlève le dernier surplus qui peut rester.
Si, voilà, tout à
Donc
fait.
là, l'humain est primordial dans cette étape-là, encore plus que dans les autres.
Voilà, et donc une fois que tout ça est terminé, on s'est assuré que l'essuyage était bon, on passe sous presse avec un papier humidifié, on le ressort, et voilà, on regarde par rapport au spécimen ou au BAT si le tirage est conforme.
Et si c'est conforme?
Et si c'est conforme, on recommence tout le processus d'ancrage. Parce qu'un ancrage ne permet qu'une impression.
Ah oui, d'accord. À chaque fois, donc quand vous avez 20 ancrages à faire, enfin 20 impressions à faire, c'est 20 ancrages.
Voilà,
D'accord,
tout
ok.
à fait. En
D'accord.
sachant que sur les planches les plus complexes, les ancrages peuvent prendre une heure, par exemple.
Ouais, donc c'est vraiment un temps long. Alors, une fois que c'est imprimé, etc., vous en faites quoi? Vous le faites sécher, j'imagine?
Tout à fait. On dispose les feuilles dans des toiles cirées. Et là, c'est des collègues du pôle, des collègues magasiniers qui
Ouais.
reprennent la main dessus. Et en fait, qui font sécher nos estampes dans une salle spéciale qu'on appelle le cartonnier. Donc en fait, les estampes se retrouvent entre deux buvards, les buvards entre des cartons alvéolés, avec beaucoup de poids dessus. Donc ça passe 2 jours comme ça, à sécher, entre des buvards. Parce que voilà, l'idée étant de mouiller le papier pour le rendre plus malléable, qu'il puisse se déformer au passage sous presse,
Et après, il faut que ça revienne.
faut que ça redevienne bien plat pour pouvoir le vendre. Donc voilà,
D'accord.
une fois que ça ressort du cartonnier, on a une autre collègue qui travaille justement à la correction des estampes, c'est-à-dire retirer toutes les taches qu'il pourrait éventuellement avoir dans les marges ou dans le dos. Sachant qu'on a les mains sales, on prend
Oui.
des protections pour éviter de salir le papier, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite tache. Donc voilà, l'idée étant vraiment que les estampes qui sortent de notre atelier soient impeccables.
Ouais, donc là, encore une fois, c'est un travail collectif, vraiment du début à la fin.
Tout à fait, et c'est justement aussi. Ses collègues qui sont à la correction apposent à toute fin le timbre sec, donc qui
D'accord.
est un gaufrage tout en bas à droite,
Oui, je
et qui
vois.
permettent de, comme on n'a ni signature ni numérotation, ça permet de prouver que ça vient bien de notre atelier, ça a été estampillé
Estampillé, atelier Remen Grand Palais, quoi.
tout à fait.
Ouais. Super, merci, c'est très clair et précis. On se rend compte effectivement de l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour chaque estampe à imprimer. D'ailleurs, pour finir, je voudrais vous poser une petite question plus personnelle. Dans ce métier de taille-doucier, qu'est-ce qui vous plaît le plus et pourquoi? Y a quelque chose qui vous plaît le plus déjà.
Oui, il y a plusieurs choses qui me plaisent. C'est tout d'abord la satisfaction de voir une belle image. C'est voilà, en taille douce, je trouve qu'il y a on va dire des couleurs, des noirs aussi qui ressortent d'une certaine façon.
Ouais.
Une densité de pigments qui est très belle. Et il y a toujours déjà un côté un peu magique à relever une estampe, à relever une feuille après un passage sous presse et de voir ce qui en sort. Avec le temps, on perd peut-être ce côté nouveau, mais il y a toujours une magie qui s'opère quand on imprime une image qui est belle et qu'on a réussi à en tirer le meilleur parti. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant
Ouais.
de voir ça.
Ouais.
Il y a tout un, comment dire, tout un travail de la matière en fait, sur le papier, sur le cuivre. C'est un travail très tactile. Et c'est aussi une autre partie du métier que j'apprécie, c'est de pouvoir en parler. Donc bon bah, là,
Parfait.
aujourd'hui, c'est l'occasion. On reçoit aussi des visites de
Oui,
l'Office de
ça,
tourisme de
je vais
Saint-Denis.
en parler effectivement, mais effectivement, il y a
Toute une
effectivement la
transmission
possibilité
là-dessus.
de. C'est hyper intéressant, ça. Je trouve que tous les ateliers ne font pas ça et je trouve que c'est bien parce que ça permet à tout un chacun de comprendre comment ça fonctionne et de savoir que ces métiers existent aussi, parce que ce n'est
Oui.
pas toujours évident de savoir que ça existe. On s'imagine que tout est industrialisé, que tout est reproduit à la chaîne dans des usines et en fait, finalement. Ben non, c'est pas forcément le cas. Et pour faire des belles choses, ben souvent il faut quand même, il faut la main de l'homme en fait, ou de la femme du coup. Et c'est le cas ici. Juste une petite question qui me vient parce que on a parlé tout à l'heure de cette plaque que vous avez, que vous pouvez plus utiliser, mais qui est partie donc de Venise là. Qui,
Oui.
voilà. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous en recréez une autre plaque pour continuer à pouvoir imprimer ce genre de, enfin le dessin qui était dessus? Vous recréez une plaque, une copie ou pas du tout? Ou c'est
Non.
fini? Enfin, on peut plus reproduire cette
Alors, on a quelques planches dans la collection qui sont des galvanoplasties, donc c'est-à-dire des moules de plaques
D'accord.
originales qui ont été faites à une certaine époque. On a un petit peu, il me semble, perdu cette technique-là. Donc,
D'accord.
c'était sous-traité dans des ateliers avec qui on n'a plus contact. Il faudrait peut-être se renseigner, mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout.
D'accord,
Donc,
ok. Donc ça veut dire que par exemple la plaque devant laquelle vous étiez, ben, vous ne pouvez pas vous en servir. En fait, celle-là, on la garde en tant que patrimoine, mais on ne peut plus reproduire finalement
voilà.
le.
Bon, au
D'accord.
final, j'ai fait un tirage, j'ai vu que la plaque se déformait.
Ouais, d'accord.
Enfin, elle était bombée avant de passer sous presse, elle était cintrée ensuite, donc elle avait vraiment un mouvement comme ça. Donc finalement, c'était la dernière impression de cette plaque-là. Bon,
Ben, voilà, vous avez
c'était un
participé à
peu,
ce
c'était un,
moment historique.
voilà, solennel. Non, toutes les créations qui se font à l'atelier sont vraiment par des artistes contemporains, et ça, c'est à partir d'une image, de leur image. C'est leur projet,
D'accord, ok.
et donc c'est pas du tout de la retranscription de planches anciennes.
D'accord, super. C'était une question que je
Oui.
me suis posée. En tout cas, merci Marius, donc Marius Tessier, pour vos explications et pour le partage de votre métier. C'était vraiment très intéressant. On a encore appris beaucoup de choses. Pour celles et ceux donc, qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des ateliers d'art de la RMN Grand Palais ou même à vous inscrire. Donc, vous en avez parlé pour des visites guidées. Il y a le site exploreparis.com qui permet justement de s'inscrire pour ces visites. Je vous encourage à le faire parce que je pense que c'est. On découvre des choses, des métiers qu'on ne connaît pas, des œuvres aussi qu'on ne connaît pas, donc c'est très intéressant. En tout cas, toutes ces informations sont sur mon site, lescarnetsdigor.fr, ainsi que l'article illustré qui vous permettra de voir quand même en image ce dont on vient de parler. Merci beaucoup.
Merci quoi.
Voilà, j'espère que cette exploration de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, ainsi que l'interview de notre artisan imprimeur Taï Doucier vous ont plu et passionné. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à écouter le podcast dédié à ma visite de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, où je partage avec vous ma rencontre avec deux jeunes artisanes, Romane Pradier, patineuse, et Perrine Sastre-Miral, mouleur. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ma visite des ateliers d'art de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais dans l'article illustré sur mon site, lescarnetsdigor.fr, un site où vous pourrez aussi découvrir d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.